Les nuits de France Culture.
En 1947, Marcel Pagnol avait été reçu à l'Académie française. Pour saluer cette réception, le syndicat des producteurs et celui des auteurs lui remettaient une épée d'académicien, ce qui donnait lieu à une amicale cérémonie dans les studios de Boulogne-Billancourt. Le président du syndicat y prononçait un discours. L'immense auteur de revues et d'opérettes Albert Wilmetz, alors président de la SACEM, aussi. Frappé d'une extinction de voix, Marcel Pagnol restait lui muet et confiait le soin à Louis Jouvet de lire le discours de remerciement qu'il avait préparé. Écoutons comment Lise Elina rendait compte de cette cérémonie pour les auditeurs de la chaîne nationale de 1948.
Nous sommes rue Marcel Pagnol. C'est sous le nom d'une fausse rue, devant un mur de fausses pierres, mais au vrai studio de Billancourt. Marcel Pagnol reçoit sa vraie épée d'académicien. Épée en vermeil, aux armes de la ville de Marseille d'un côté, au nom de Marius Fanny César de l'autre côté. Roger Ferdinand, Albert Wilmetz et tous les divers présidents du syndicat, des fédérations et autres sociétés attendent M. Frogeret, président du syndicat des producteurs, qui remettra en leur nom l'épée à Marcel Pagnol. Et voici qu'il arrive, en compagnie de Michel Fouret-Cormeret, directeur du cinéma français. Il prend la parole et, après avoir remercié les divers groupements professionnels qui ont participé à l'exécution et à la remise de l'épée, il poursuit.
Non plus de ne pas citer celui dont l'absence est vivement ressentie par tous. Notre grand, notre inoubliable Rému, lui qui, vous vous en souvenez sans doute, s'était proposé de vous offrir votre sabre. J'en ai maintenant terminé. Veuillez accepter, mon cher Pagnol, au nom de tous ceux qui ont tenu à participer à notre initiative, cette épée, complément encombrant mais indispensable de votre qualité de membre de l'Académie française.
Bravo. Il lui remet l'épée que l'on vient de sortir de son tour de cuir et lui donne. Marcel Pagnol, qui souffre d'une extinction de voix, a demandé à Louis Jouvet de prendre la parole à sa place.
Mesdames, messieurs, en regardant cette épée que je dois à votre amitié, je ne saurais que vous dire si je n'avais sournoisement recopié sur ce papier la célèbre phrase de Joseph Prudhomme. Ce sabre est le plus beau jour de ma vie. Mais il ajoutait avec une certaine solennité, je m'en servirai pour défendre nos institutions et au besoin pour les combattre. Lorsque cette déclaration me revint en mémoire, elle me fit rire tout d'abord, mais au moment même où je l'écrivis, il me sembla soudain qu'au temps où nous vivons, elle avait perdu de sa vertu comique. Nous ne savons plus en effet si ceux qui violent certaines lois nouvelles sont plus ou moins coupables que ceux qui les acceptent ou que ceux qui les font, et il nous faut de bien bonnes lunettes pour distinguer les trois sentiers du devoir. Il se rétrécit chaque jour et d'une façon si étrange qu'on n'y pourra bientôt plus passer. Mais ceci est une digression, et ce n'est pas ici l'heure ni le lieu d'aborder de si graves problèmes. Cette courte réponse ne peut contenir que des remerciements. Je veux remercier d'abord les auteurs dramatiques qui m'offrirent dès la libération la présidence de la Société des auteurs. C'était me confier de lourdes responsabilités. C'était aussi me désigner au suffrage de l'Académie française. Je suis en effet le 33e président de notre société qui ait eu l'honneur de prendre séance sous la coupole. Et j'espère qu'une tradition aussi longuement établie ne s'arrêtera pas à moi. Et maintenant, merci à ceux du cinéma. Certes, je n'oserais pas dire que la caméra soit entrée à l'Académie en même temps que moi, pas plus que la presse des imprimeurs n'y a suivi Pierre Benoît ou les tarots. Je continue en effet à croire que c'est l'art dramatique qui est l'âme du cinéma et que l'art cinématographique n'est qu'un art d'expression. Mais de tous, c'est le plus souple, le plus efficace, le plus puissant. Cependant, ses débuts avaient été modestes. Les lanternes à pédales de Léon Gaumont fonctionnèrent longtemps sous des tentes foraines. Cet art ne représentait alors qu'une attraction. Les écrivains ne le tenaient pas en grande estime et il ne fut venu à l'esprit de personne qu'un cinéaste pût être un créateur.
Vous savez comment le film se mit à parler et quelle est aujourd'hui son importance dans le monde. Mais alors, un nouveau danger menaçait la dignité du cinéma. Ce fut la grandeur de son succès. Nous savons en effet que les plus grands éloges vont souvent aux œuvres qui n'intéressent qu'une élite et qu'on affecte parfois de mépriser un roman ou un film s'ils ont touché plusieurs millions de lecteurs ou de spectateurs. L'Académie française n'a pas adopté ce préjugé. Je crois qu'en m'accueillant parmi eux, les académiciens ont tenu compte du succès plus que du mérite. Et le succès, c'est en grande partie au cinéma que je le dois.
Bravo. Bravo.
Et maintenant, Albert Villemetz, président de la Société des auteurs, éditeurs et compositeurs de musique, vous parle.
Messieurs, mon cher Marcel, jamais je n'ai été aussi fier et aussi heureux d'être président de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qu'aujourd'hui, pour t'apporter, au nom de mes 18 000 membres, nos félicitations les plus affectueuses. Avant toi, il y avait le cinéma muet et charlot. Après, il y eut le cinéma parlant qui parla longtemps pour ne rien dire. Avec toi, on vit le dialogue passer au premier plan. Avant l'invention du technicolor, tu sus par tes mots nous donner l'impression de la couleur. Et par ton esprit, le cinéma est vraiment, véritablement devenu le cinéma en relief. Qu'il me soit permis de te dire combien Marseille et la France peuvent s'enorgueillir d'avoir un fils tel que toi. Je, sans vouloir ajouter une onde de mélancolie à cette fête, je crois que tu ne m'en voudras pas d'associer, comme l'a fait M. Frogeret, le souvenir ému de deux grands acteurs, M. Jules Rému, je dis monsieur parce qu'il adorait, tu le sais, ce titre, et M. Charpin. Ils sont morts tous les deux, mais grâce à toi, ils vivront longtemps sur tous les écrans du monde. Au nom de ma société des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, qu'il me soit permis, mon cher Marcel, de t'apporter une fraternelle accolade.
C'est fini.
Louis Jouvet, qui, je le rappelle, vient de parler au nom de Marcel Pagnol, se sauve pour regagner son théâtre. Il est suivi de près par Janson. Eh bien, Janson, mais pourquoi partez-vous si vite? Vous jouez pas?
Non, je partais pas si vite parce que j'ai horreur des cérémonies officielles. Mais Dieu merci, j'ai toujours tenu que l'Académie française était une vaste plaisanterie. Je m'aperçois aujourd'hui que c'est une farce encore plus drôle que je ne l'espérais. Cette cérémonie de la remise de l'épée a eu lieu dans des décors en contreplaqué. Ce qu'il y a de bien dans cette épée, c'est une épée pacifique. Pagnol disait, la comparait à l'épée de M. Prudhomme, disait que c'était le plus beau jour de sa vie. C'était aussi un jour avec soleil, bien que le soleil soit artificiel, comme l'épée elle-même, qui, Dieu merci, n'est qu'un accessoire décoratif.
Le terrible Janson s'est sauvé après cette boutade et maintenant se fait très académiquement photographier aux côtés de Marcel Pagnol.
Vous venez d'entendre la cérémonie de la remise de l'épée d'académicien à Marcel Pagnol au studio de Boulogne-Billancourt, un reportage de Lise Elina, diffusé le 18 janvier 1948 sur la chaîne nationale. Frappé d'une extinction de voix, Marcel Pagnol s'y exprimait à travers la voix de Louis Jouvet.